Bienvenue à cette conférence sur la légende arthurienne, le mythe arthurien. Il y a marqué la fantaisie arthurienne, c'est un tout petit peu abusif puisque nos invités aujourd'hui sont plutôt spécialistes de la légende dans l'histoire plutôt que dans l'immédiat contemporain, même si on pourra apporter aussi un éclairage sur cette question. Donc essentiellement, la conférence va être, vous êtes proposé. Il fait vraiment un bruit bizarre, ce... Hein, je vais essayer d'en changer. Hein. Alors, celui-là va mieux. Okay. Donc, Georges Bertin est un chercheur. Ouais, non, c'est ça. Ah, c'est ça. Est un chercheur en sociologie et c'est un socio-anthropologue. Et puis, il nous vient d'en face. Hein, et on a tout à fait plaisir à recevoir les invités des rencontres maçonniques et ésotériques qui se situent... Non, on le rapproche pas. Qui se tiennent juste de l'autre côté du parc, hein, et qui sont associés aux imaginales. Donc Georges Bertin est directeur de recherche en sciences sociales au CNAM, Pays de la Loire. Il est membre de la Société arthurienne internationale. Il est président fondateur de l'association SENA, qui organise chaque année, alors jusqu'ici c'était à Lasselle et Château, et maintenant ce sera à Angers, des rencontres autour de l'imaginaire arthurien, voilà, les femmes dans la littérature arthurienne, le bestiaire arthurien, le rire, l'érotisme, enfin voilà, le thème change chaque année. Donc vous l'aurez compris, il s'intéresse particulièrement à l'imaginaire, aux travaux dans une perspective jungienne et reichienne, au mythe, au symbolisme, notamment donc dans une perspective interculturelle et diachronique. Donc comment sa variation et permanence des mythes à travers l'histoire et dans différentes aires culturelles. Et il va illustrer donc ces thématiques aujourd'hui pour nous sur l'exemple de la mythologie arthurienne. Et puis en contrepoint de ce que nous présentera Georges Bertin, on a aussi la chance d'avoir parmi nous Lauric Guillot, donc qui est également un chercheur universitaire, spécialiste des littératures de l'imaginaire, du roman d'aventure, et plus particulièrement des mondes perdus, auxquels il avait consacré son doctorat d'État. Il a travaillé à l'université de Nantes, puis à l'université d'Angers, et il est maintenant professeur émérite de cette université, donc spécialiste de littérature anglaise et américaine, pas spécifiquement arthurienne, mais en fait, les thèmes ésotériques, en particulier la quête du Graal, vont se retrouver dans ces corpus. Moi, Anne Besson, je suis universitaire, j'ai un peu travaillé sur la fantaisie arthurienne. Hein, j'ai consacré un ouvrage qui s'appelle Arthur au miroir du temps, aux évolutions du personnage d'Arthur jusque dans la fantaisie contemporaine. Et enfin, Anne-Laure, alors votre nom de famille, ce serait peut-être bien d'avoir votre nom de famille.
Comme vous. Alors, Anne-Laure Marioton.
Anne-Laure Marioton est la responsable de l'association arthurienne dans la région, donc des hautes terres arthuriennes.
Voilà, tout à
voilà.
Fait.
Et donc, il y a une cérémonie demain qu'elle nous présentera à la fin de la conférence pour faire la transition avec la suite du programme. Donc, je laisse la parole à Georges Bertin.
Merci beaucoup, Anne-Laure, que j'ai eu le plaisir d'accueillir à la Célé-Château.
Moi, c'est Anne.
Anne. J'ai eu le plaisir d'accueillir à Célé-Château pour justement une journée d'études sur la fantaisie et la légende arthurienne. Ouais. Lauric était là aussi d'ailleurs. Bien, alors la légende arthurienne, je suis un petit peu tombé dedans quand j'étais petit, puisque je dois à un professeur de quatrième de m'avoir passionné pour les récits arthuriens. Et cette passion ne m'a guère quitté depuis. J'ai consacré quelques ouvrages. Ma perspective, comme l'a dit Anne, est plutôt diachronique, c'est-à-dire c'est de partir du mythe arthurien pour voir son évolution dans le temps, voire également dans l'espace. Je m'intéresse également, j'ai consacré plusieurs ouvrages à la légende du Graal et le dernier s'appelle d'ailleurs De quête du Graal en Avalon, où j'ai aussi développé un travail sur le mythe d'Avalon. Alors, on va essayer de partir de choses qui sont en rapport avec le thème qui avait été proposé aujourd'hui, bien que je ne sois pas spécialiste, je l'avoue, de fantasy. Mais la légende arthurienne, nous en parlions avec Anne tout à l'heure, c'est aussi, quelque part, une fantasy à elle toute seule. Depuis les origines, si on pense par exemple à un personnage comme celui de Merlin, qui se téléporte, qui est transtemps, qui est parfois transformé en dragon, en petite souris. Donc il y a là aussi des thèmes qu'on retrouvera sans doute dans la fantasy beaucoup plus tard. Alors la légende arthurienne sont des récits mythiques qui vont se trouver actualisés au fil du temps. On va pouvoir... Depuis le Moyen-Âge, là vous avez une représentation d'un manuscrit du français du XVe siècle qui est à la Bibliothèque nationale, et on voit Galad qui retire l'épée du Perron en même temps qu'on a l'apparition du Saint Graal au collège des 12 chevaliers de la Table Ronde, qui sont réunis autour du roi Arthur. Ça se passe d'ailleurs un jour de Pentecôte. Le Graal est un objet magnifique qui est censé avoir recueilli le sang du Christ sur la croix, transporté en Occident par Joseph d'Arimathie, qui est un disciple proche du Christ, après l'avoir nourri de longs mois dans la prison où les Romains l'avaient enfermé. Eh bien, il l'amène jusqu'en Occident, jusqu'en lieu mystérieux qui s'appelle Avalon, que les poètes et les romanciers ont identifié à la ville anglaise de Glastonbury dans le Somerset, qui est aujourd'hui encore un lieu tout à fait extraordinaire que je vous incite à aller visiter. Et à l'époque où Arthur vit, au VIe siècle de notre ère, mais il en est rendu compte dans les écrits à partir du XIIe et très largement XIIe, XIIIe siècle, on voit dans les récits arthuriens, les récits de Chrétien de Troyes et de ses successeurs, notamment Robert de Boron a beaucoup insisté sur le Graal. On voit le Graal, donc ce vase sacré, empli du sang du Christ, mais qui fait aussi référence à la coupe d'abondance des Celtes, au chaudron de la tradition celtique, eh bien, rempli, passé dans les airs, en même temps qu'une douce musique et des parfums suaves envahissent l'air, et il remplit de mets les plus délicieux les uns que les autres, eh bien, les assiettes des chevaliers qui sont devant elle, et donc manuscrit du 13e ici, qui nous le présente. Ensuite, la procession du Graal est décrite dans le roman de Chrétien de Troyes au XIIe siècle. Chrétien de Troyes est le premier à avoir organisé un grand récit autour du Graal, un récit poétique, en langue romane, c'est-à-dire en langue vulgaire. Et Chrétien de Troyes, eh bien, nous présente dans son roman le chevalier Perceval qui arrive un soir dans un château qui est gardé par un personnage curieux, le roi Meynier, qui est blessé dans ses parties viriles. Et puis il l'invite à dîner. Et au cours du dîner, eh bien, apparaît une procession étrange où on voit des jeunes filles qui portent une lance qui saigne, des chandeliers et puis un Graal. Perceval est tellement stupéfait et émué par ce spectacle qu'il n'ose pas poser de questions. Et le lendemain, quand il se réveille, eh bien, il découvrira qu'il est au milieu d'une terre déserte. Donc on a là aussi quelque chose qui est un peu fantastique déjà dans le thème. Perceval, en montrer l'actualisation contemporaine, vous avez tous vu sans doute, ou vous verrez, le très beau film de Éric Rohmer qui s'appelle « Perceval le Gallois ». Avec le Lucchini dans le rôle de Perceval, mais il est très jeune à l'époque, et Ariel Dombal dans le rôle de la jeune fille. Et le cinéaste a reproduit d'une façon très fidèle, y compris dans les mots, d'ailleurs dans la scansion des rythmes, dans la succession des images, le roman de Chrétien de Troyes. C'est absolument magnifique. Ça ne dure que 4 heures, mais on perd pas son temps à le regarder. Alors les romantiques, il y a un certain laps de temps qui s'écoule à partir du XVe siècle, et les romantiques vont réactualiser à leur tour le thème du Graal. Alors là vous avez la jeune fille au Graal de Dante Gabriel Rossetti, 1860. Voilà. William Morris, 1890, une autre procession du Graal qui nous est montrée par les romantiques. Les romantiques se sont réinvestis dans le Graal, dans les récits du Graal, dans les récits arthuriens, d'une façon très très forte. Et on connaît bien entendu les Idylls of King Arthur de Alfred Tennyson, hein, qui est le grand poète romantique anglais. Donc, continuez. Et puis, on a, au début du XXe siècle, des personnages tout à fait étranges qui se retrouvent à Glastonbury, l'endroit où Joseph d'Arimathie est censé avoir apporté le Saint Graal. Hein. Alors, il y a Frédéric Blybond, qui est archéologue, parapsychologue et mystique, et qui a des visions dans lesquelles on lui dit bien d'aller voir à Glastonbury. Et il découvre sur la côte italienne un vase extrêmement précieux en verre, hein, dont on assure qu'il le date de la période du Christ. Et il le ramène à Glastonbury, il va le cacher dans une source. Parce qu'il a reçu un songe dans lequel on lui dit que dans cette source, deux jeunes filles viendront et retrouveront le Graal. Alors comme c'est quand même plus pratique de l'amener avant qu'elle retrouve, il l'y amène. Mais après, il y a tout un culte du Graal qui va se répandre à Bristol. Alors il y a une occultiste, écrivain un poème, qui s'appelle Lion Fortune, qui fréquente également les lieux, qui a écrit Glastonbury, Avalon of the Heart, 1890-1946. Loric en parlerait sans doute beaucoup mieux que moi, parce qu'il la connaît un petit peu. Hein. Nous avons vu ensemble, d'ailleurs, ses écrits à Glastonbury. Hein. Et elle est à la fois occultiste, écrivain, elle appartient à une société secrète qui s'appelle la Golden Dawn, l'aube dorée, mais rien à voir avec l'aube dorée grecque hein, d'aujourd'hui. Hein, et elle va être un écrivain très prolifique hein, sur la matière du Graal. Elle va aussi d'ailleurs investir les lieux à Glastonbury, hein, créer un lieu où elle va recevoir des écrivains, des poètes, des musiciens. Alors de nos jours, j'ai trouvé un site de poésie qui s'appelle Graal en Espagne. Hein, et Graal qui se rapporte à une des significations du Graal qui signifie le sang réel. Hein, je vous ai dit que c'était le sang du Christ hein, qui était contenu dans le vase mystique hein, qui est enlevé à Glastonbury. Et on voit aujourd'hui un nommé William José Carlos Marmonti, qui est un écrivain espagnol, écrivain et poète espagnol, et qui, lui, a créé toute une dynamique autour d'un site de poésie avec des rencontres poétiques. Hein, et ça se passe en Espagne, à Barcelone. Alors la légende est très populaire, hein, depuis le chaudron des Celtes jusqu'au sang réel des créateurs contemporains. Hein, vous avez une représentation du Perceval de Romère. Et puis il y a cinq livres qui sont parus en livre de poche. Peter Berling. Peter Berling est un cinéaste, mais aussi un producteur de cinéma, hein, bien connu dans les milieux du cinéma. Vous l'avez peut-être vu jouer également dans Le Nom de la Rose, hein, puisque c'est lui qui fait le gros moine un petit peu difficile. Hein, et Peter Berling, il a écrit Le sang des rois, hein, c'est une espèce de les enfants du Graal. Alors il y a une trilogie qui ensuite à laquelle il va rajouter deux autres livres et dans lequel il reprend toutes ces idées du sang réel. Et il va montrer qu'il y a une dynastie du Graal qui s'est installée en Occitanie, hein, avec des gens qui sont issus à la fois de la lignée des Hohenstaufen et puis la lignée des Albigeois, des princes albigeois de Toulouse, hein, et que ceux-ci, ils sont porteurs via Marie-Madeleine, et c'est un thème qu'on retrouvera également plus tard chez des romanciers plus contemporains, hein, comment que ce sang réel, il continue à vivre dans certaines dynasties, et pour certains, il aurait été aussi à l'origine la dynastie des Mérovingiens. Donc vous voyez, il y a une espèce de filiation comme ça, mystique, ésotérique, culturelle, hein, qui s'organise autour de cela. Alors, un auteur, alors là, carrément fantasy, Stéphane Lored, hein, le cycle de Pendragon, qu'on trouve également très bien aujourd'hui en livre de poche, hein, il y a le retour du roi Arthur, l'épée dans la pierre, un Merlin également. Et puis un Graal, donc c'est le cycle du Pendragon, où là on va trouver des choses qui dépassent la rationalité des écrits même romantiques, hein, puisqu'il y aura une projection tout à fait fantastique hein, des personnages hein, dans plusieurs dimensions à la fois. au cinéma King Arthur, hein, le Antoine Fuqua, c'est le dernier. Je me trompe, ce n'est pas le dernier, il vient d'en sortir un. Hein, qui est sur les écrans depuis le 14 mai, hein, un roi Arthur. Je ne l'ai pas encore vu. Hein. Bon, il semblerait que ce soit un peu gore quand même, comme ambiance. Enfin, on verra à l'origine. J'aime beaucoup le King Arthur de Fuqua, qui nous présente un Arthur un peu primitif. Il nous raconte l'histoire d'un chef de guerre issu d'une tribu sarmate qui a été enrôlé par les Romains un peu contre son gré dès son plus jeune âge. Et puis, au moment où les Romains quittent le mur d'Adrien et quittent les garnisons, eh bien, il va être chargé d'une dernière mission, d'aller sauver une communauté chrétienne qui est bien au-delà du mur d'Adrien, chez les Pictes. Hein. Et donc, il va y avoir toute l'intrigue, eh bien, va consister à montrer comment ces derniers chevaliers, qui normalement devaient être démobilisés, eh bien, vont encore accomplir un certain nombre d'exploits. Et puis, vous avez bien entendu, dans le rôle de Guenièvre, la ravissante Keira Knightley. Depuis cela, c'est mon actrice préférée. À la télévision, vous avez tous vu, bien entendu, le Camelot d'Alexandre Astier, hein, qui présente un Arthur un peu bourru, un peu à côté de ses pompes, qui complètement dépassé par les événements, avec une Guenièvre qui est, elle, très terre à terre, hein, on est, hein, donc très loin du blanc fantôme des romans de la Table Ronde. Mais le Camelot d'Astier, d'une certaine façon, n'est pas très loin des récits du XIIIe siècle, puisque, au XIIIe siècle, eh bien, le roi Arthur, il n'est plus le grand héros triomphant qu'on peut trouver au XIIe. Hein, c'est un héros plutôt passif, hein, qui se laisse un petit peu emporter par les événements. Alors forcément, comme tout bon caricaturiste, Alexandre Astier a forcé le trait, hein, mais il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Quant aux autres chevaliers de la Table Ronde, que nous adorons par ailleurs, là ils sont complètement déjantés, absolument hors de circuit, pleutres, ils se cachent derrière le roi et le roi les engueule sans arrêt, c'est tout à fait extraordinaire, mais vous avez vu sans doute toutes les séries télévisées de Astier. Mais Martin Aurel, qui est le grand historien médiéval, médiéviste actuel, qui est directeur du Centre d'études de civilisation médiévale de l'Université de Poitiers, a bien montré tous les liens qu'il pouvait y avoir entre les travaux d'Astier et puis certains écrits arthuriens des XIIe et XIIIe siècles. Hein, donc, il a écrit d'ailleurs un livre là-dessus qui en rend compte. On a même d'ailleurs des orchestres de rock. Il y a bien sûr Alan Simon, hein, qui a fait un Excalibur. Et puis, j'ai trouvé aussi un orchestre de black rock metal, Excalibur, 22 octobre 2010. Hein, s'inspire donc d'une certaine façon de la mythologie arthurienne. Alors là, on est plutôt du côté de la mythologie païenne, hein, de la légende arthurienne, pré-chrétienne en tout cas. Alors, quelques mots sur l'origine du mythe arthurien. C'est un objet qui nous arrive de très loin. Hein, sans doute, le thème du Graal, tel qu'il a été repris par les Romains arthuriens, hein, il ne fait que synthétiser en quelque sorte des choses qu'on va trouver chez les Celtes, mais plus généralement dans les objets symboliques des Indo-Européens. Il y a notamment des écrits du Mésil là-dessus qui sont très, très importants. Ce qu'on appelle parmi les objets fonctionnels, ceux qui signifient la royauté et la capacité à gouverner, hein, dont s'entourent tous les chefs de guerre ou tous les princes, toutes les principautés régnantes des peuples Indo-Européens, mais on trouve toujours un vase de régénération et d'immortalité. À côté, il y a une lance, une épée, un trône ou une pierre, enfin, etc. Donc, depuis les rives de l'Indus, ça suit l'expansion celte, hein, de 2000 avant Jésus-Christ à moins 500 avant Jésus-Christ. Et au fur et à mesure que les Celtes s'avancent vers l'ouest, hein, toujours un peu plus à l'ouest, hein, comme Dupont et Dupont, eh bien, comment le thème du Graal, hein, qui ressurgit dans les sagas, dans les traditions populaires, y compris dans les traditions bardiques irlandaises ou galloises. Donc, des talismans fonctionnels de l'autre monde des Indo-Européens qui sont liés aux trois fonctions des Indo-Européens, les fonctions de la souveraineté magico-religieuse, les fonctions des guerriers, et puis la troisième, Voilà, c'est la fonction nourricière. Eh bien, on peut dire que le Graal, il appartient à la première et à la troisième, puisque il est en général possédé par les druides. Le Dagda, le grand dieu druide, sort de la mer en tenant un chaudron. Il est également la fonction nourricière, puisque vous l'avez vu, il nourrit les chevaliers de la Table Ronde. Mais les guerriers se lancent à sa poursuite sous l'instigation de Merlin. Lorsque la Table Ronde est créée, eh bien, le roi Arthur va lancer ses chevaliers, va les faire passer d'une certaine façon d'une chevalerie guerrière à une chevalerie céleste en leur demandant d'aller retrouver le Saint Graal. Vous voyez qu'il syncrétise bien à lui tout seul les trois fonctions de toutes les sociétés indo-européennes. Alors il y a des sources diverses sur lesquelles je passe rapidement. L'archéologie a trouvé une pierre à Tintagel au VIe siècle, disant qu'Arthur aurait vécu là-bas. Il est vrai qu'on présente le château de Tintagel sur la côte nord de Cornouailles comme la dernière résidence d'Arthur. C'est là aussi qu'il aurait été conçu par Uther Pendragon après qu'il ait pris l'assemblance du duc de Cornouailles pour féconder la belle Igerne. Et Arthur serait donc déjà né d'une relation un peu spéciale, puisque c'est une relation par traîtrise et pas très courtoise au fond. Alors, je passe sur les sources latines. On en a dans des vies de saints, on en a dans les chroniques et des annales comme Gildas, Bède le Vénérable. On a Nennius dans son Histoire des Bretons qui, le premier, commence à parler d'Arthur dans la littérature latine. Et puis, on sait simplement qu'Arthur, c'est un chef de guerre qui a livré 12 batailles, dont quelques-unes sur le continent. Dans certains récits, il serait même allé jusqu'à Rome. On sait qu'il a livré une bataille notamment au Mont Badon où il a défait les Saxons et les Pictes plus exactement qu'il meurt à Camlan. Et à l'époque il a un allié qui s'appelle Mordred, alors que dans la légende arthurienne Mordred sera son fils incestueux qui signera sa mort dans le dernier combat qu'ils se livreront ensemble où ils vont s'entretuer mutuellement. Mais enfin, on a des sources à la fois bardique et latine, comme vous le voyez. Alors, il y a également un enracinement folklorique de la légende arthurienne au bocage normand. Je passe rapidement là-dessus. Il y a une fosse Arthur, il y a des toponymes Arthur dans le Domfronté. On a un Saint-Orter en tueur de dragons qui ressemble beaucoup au roi Arthur. Ça, c'est une recherche à laquelle je me suis bien consacré. Au XIIe siècle, Geoffroy de Montmousse va ressusciter en quelque sorte les thèmes arthuriens dans les traditions galloises, bardiques et dans les traditions latines que j'ai citées tout à l'heure, en écrivant les prophéties de Merlin, l'histoire des rois de Bretagne et la vie de Merlin. Nous sommes au milieu du XIIe siècle. Et c'est véritablement lui qui va fixer d'une façon un peu définitive, parce que les autres romanciers, comme Chrétien et ses successeurs, vont s'alimenter beaucoup chez Geoffroy de Montmousse. Geoffroy de Montmousse est évêque des Galles du Nord. Il est au service de la dynastie anglo-normande. Donc il a d'une certaine façon orienté ses écrits historiques, même s'il se présente comme un historiographe. La cour d'Henri II va également, avec Geoffroy Guémard, Vasse, et puis un certain nombre d'anonymes, Marie de France, utiliser largement le légendaire arthurien. Et Henri II Plantagenet, qui à l'époque où les écrits arthuriens se réalisent, est sans doute le souverain le plus puissant d'Europe, puisqu'il gouverne un espace qui va de l'Écosse jusqu'aux Pyrénées, suite à son mariage en 1154 avec Aliénor d'Aquitaine, la comtesse d'Aquitaine, qui lui apporte en apanage l'ensemble de ses possessions. Aliénor qui a divorcé entre-temps du roi de France. Il a perdu beaucoup à ce moment-là, sans doute avec la personnalité d'Aliénor, mais aussi parce qu'elle elle possédait déjà un bon tiers de la France. Et donc ils vont régner sans égal jusqu'à la mort d'Henri II. Et elle va faire venir à sa cour, comme c'est une princesse occitane, qui est la petite fille d'un poète, Guillaume IX d'Aquitaine. Elle va faire venir à sa cour des troubadours, des clercs et des gens qui vont à la fois réciter, déclamer, mais aussi rédiger les romans de la Table Ronde qu'elle va faire recopier dans les abbayes normandes. Chrétien de Troyes est le plus grand poète arthurien, hein, c'est aussi sans doute le plus grand de nos poètes médiévaux. Hein, il compose cinq ouvrages arthuriens, Érec et Enid, Cligès, Chevalier au Lion, Le Chevalier de la Charrette et Le Comte du Graal. Hein, et c'est un chanoine de Troyes, hein, qui est protégé d'Henri le Libéral et de Marie de Champagne. Marie de Champagne qui est elle-même la fille d'Aliénor d'Aquitaine. Donc vous voyez, il y a une filiation là, qui s'établit. Et d'après Martin Aurel, dans son monumental ouvrage qu'il a consacré « Comment la légende du roi Arthur », eh bien, il montre que, compte tenu des écrits, compte tenu des références historiques qu'on peut trouver dans les romans de Chrétien de Troyes, il a vécu, il a fréquenté la cour des Plantagenets. Ce qui nous ramène encore aux Plantagenets. Alors vous allez me dire, pourquoi les Plantagenets s'intéressent-ils au roi Arthur ? Eh bien, c'est tout à fait simple à comprendre. Henri II Plantagenet est l'héritier des Anglo-Normands qui, après que Guillaume le Conquérant ait conquis l'Angleterre en 1066, eh bien, se sont installés, hein, et ont expulsé un certain nombre de Saxons de leurs terres pour mettre des chevaliers normands à leur place. Hein, mais comme les Saxons eux-mêmes avaient fait la même chose auparavant vis-à-vis des Celtes, donc, ce qui explique d'ailleurs une grande immigration celte au 7e, 8e siècle vers la Bretagne, et que Guillaume le Conquérant est venu avec des Bretons de Bretagne reconquérir l'Angleterre, ça fait d'une certaine façon une revanche, hein, que Henri II aide les Celtes à prendre sur les Saxons. Et quoi de plus pratique ? Eh bien, de dire, à travers les écrits, une espèce d'intoxication littéraire, en quelque sorte, eh bien, qu'il est lui-même l'héritier du roi Arthur. C'est si vrai d'ailleurs qu'en 1191, il va inciter à la découverte, eh bien, de la tombe du roi Arthur et de la reine Guenièvre, où ça, vous l'avez tout de suite deviné, c'est à Glastonbury, c'est-à-dire en l'île d'Avalon. Hein, mais ce n'est pas lui qui le trouvera d'ailleurs. Enfin, il ne sera pas là pour l'exhumation des reliques, puisqu'il est mort l'année d'avant, et c'est Richard Cœur de Lion. Bon, enfin, c'est toujours les Plantagenets. Hein. Les Plantagenets vont terriblement s'installer. Une autre raison qui a été évoquée également par les historiens, c'est que dans la mesure où on retrouve les restes du roi Arthur, ça veut dire qu'il ne peut pas revenir. Parce qu'il y a une légende galloise, hein, qui est rapportée d'ailleurs dans un certain nombre d'écrits arthuriens, qui montre que le roi Arthur se fait emporter dans l'île des fées, l'île des neuf sœurs, hein, gouvernée par la fée Morgane, et que il reviendra un jour, Rex Arthurus, Rex Futurus, c'est-à-dire le jour où il va ressusciter en quelque sorte, il va revenir gouverner les Celtes. Et alors, les Anglo-Normands ont bien voulu s'allier avec les Celtes, mais n'ont pas vraiment envie de les revoir prendre le pouvoir. Alors, pour être absolument sûr, eh bien, qu'ils vont pas revenir, que le roi Arthur va revenir, eh bien, on va découvrir son corps, comme par hasard, à Glastonbury. C'est tout à fait évident. Alors, le grand cycle du Lancelot en prose, 1215-1230, 220 manuscrits conservés à ce jour, ce qui prouve à quel point il était lu, il était populaire. Hein. Les gens lisaient tous ou l'entendaient dans la cour des châteaux, parce que les trouvères ou les troubadours l'emportaient avec eux. Ils racontaient les belles histoires des rois Arthur dans les veillées au château qui rassemblaient toute la population. Hein. Et à tel point d'ailleurs que c'était tellement populaire que les gens, eh bien, commençaient à délaisser les vies des saints, les saintes écritures pour se réfugier dans les romans arthuriens. On raconte d'ailleurs qu'un prédicateur normand était en train de parler à ses ouailles d'un sujet très religieux, très mystique. Et puis, vous voyez que tout le monde était en train de s'endormir sur les colonnes, dans l'assemblée. Et pour réveiller tout le monde, il a crié « Et le roi Arthur s'embarqua !» Et tout le monde se réveille. Ce qui vous prouve un petit peu comment la force, hein, du thème arthurien au Moyen-Âge. On va passer là-dessus. Bon, je passe sur les autres romans en prose. Hein. Il y a prolifération au XIIe, XIIIe siècle. Et puis, il y a surtout, en Angleterre, La Morte d'Arthur de Malory, hein, qui va être à l'origine aussi des écrits romantiques. Donc, la quête du Saint Graal est aussi une quête collective cistercienne au XIIIe siècle. Et c'est une mystique du Graal qui va alimenter également au XIIIe siècle le grand roman allemand de Wolfram von Eschenbach, qui montre que le Graal est gardé à Mundselvage par de vaillants chevaliers qu'il appelle Templesen, qui ont leur demeure auprès du Graal. du Graal. Ces Templiers livrent combat afin d'expier leurs péchés. Leur nourriture, ils la reçoivent d'une pierre qui, en son essence, est toute pureté. On l'appelle l'abscisse exilis. Et là, on voit un glissement du thème du Graal vers un objet totalement mystique, puisque c'est une émeraude qui tombe du ciel, hein, et dans lequel est fabriqué le Graal. Et alors, ce ne sont plus les chevaliers de la table ronde, c'est les Templiers. Vous voyez, il y a un glissement tout à fait intéressant. Donc, toute la mystique de la chevalerie chrétienne, eh bien, va se trouver syncrétisée chez Wolfram von Eschenbach dans le Graal. Et puis, vous savez que, sans doute tous que le roman de le Parsifal de Wolfram, eh bien, a donné lieu au Parsifal de Wagner, hein, qui est encore joué aujourd'hui à l'opéra. Et dans la petite collection qu'on a faite aux éditions du Cosmogone, hein, ma collègue de Barcelone, Fatima Gutiérrez, a consacré un ouvrage justement à ce thème de la mystique du Graal dans le Parsifal de Wagner. Donc Joseph d'Arimathie, je l'ai dit, on va passer là-dessus. Oui, alors, bon, après on arrive dans des relations qui sont plus de l'iconographie locale, sur lequel je vais m'arrêter là. À Vège, en Mayenne, on montre deux personnages sur une croix, sur une fresque qui date de la fin du XIIe siècle, où on voit Joseph d'Arimathie qui est en train de dépendre le Christ de la croix. Hein. Et avec mes amis du Sénat, Anne citait tout à l'heure, eh bien nous avons reconstitué sur le terrain, on y travaille depuis plus de 40 ans maintenant, eh bien un certain nombre de lieux qui montrent que le Graal, lorsqu'il est amené par Joseph d'Arimathie en Occident, hein, est-ce vrai ou est-ce de la fantaisie, je ne sais, hein, mais en tout cas, il y a dans la pierre, dans les fresques, dans certaines sculptures également, hein, des traces du Graal qu'on trouve en marge de Gaulle et de Petite-Bretagne, et jusqu'à Fécamp, l'abbaye du Précieux Sang, et ensuite, avant de passer en Angleterre, hein, à Glastonbury, où peut-être il est toujours dans le fameux Puy du Calice. Hein, et si vous allez à Glastonbury, vous pourrez vous mirer dans le Puy du Calice, hein, et vous verrez comment non seulement votre histoire se reflétait devant vous, mais vous découvrirez aussi votre avenir. Je vous laisse là-dessus.
Alors, on va... Merci beaucoup, Georges, qui en fait donc a quand même traversé effectivement l'histoire de la légende arthurienne depuis ses origines jusqu'à pratiquement nos jours. Toujours plus à l'ouest, hein, nous allons passer la parole à Laurie Guyot pour... Oui, je t'avais dit, c'était à toi après. pour les échos de ce mythe arthurien dans les littératures anglaises et américaine, hein, comment cette translation de thématiques, hein, la translation en péril et la translation sous comment le savoir arthurien, hein, glisse vers l'ouest.
Merci. Oui, personnellement, ce qui m'intéresse dans le mythe arthurien, c'est comment on est passé du mythe à la fiction. Je ne dis pas que le mythe a disparu. Georges nous a montré tout à fait la force, la pérennité du mythe arthurien. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est le côté, comme on dit aujourd'hui en français parallèle ou en anglais parallèle, la fantaisie. C'est-à-dire comment on est passé du mythe à la fiction. De quand date ce passage qui pourrait être le passage justement de la tradition arthurienne à la littérature arthurienne. Alors on sait très bien qu'en plus, à la littérature, à la fiction arthurienne, à partir, disons, peut-être 19e, 20e siècle, c'est assez tardif, c'est ajouté évidemment toute la part extraordinairement foisonnante de l'image. Hein, on a parlé du cinéma, on pourrait parler des jeux vidéo, on pourrait parler de... Il y a ce foisonnement d'images qui correspond à l'imaginaire. Hein, c'est même pas un jeu de mots. Hein, l'imaginaire arthurien se déploie en images et se déploie dans un nombre considérable de fictions qui débordent le cadre d'un pays et d'une langue pour devenir presque un phénomène, je dirais peut-être pas universel, mais un phénomène en tout cas international. Un peu plus occidentale tout de même qu'orientale, même si, par exemple, on peut trouver des traces du Graal en Orient. Hein, ceci est une autre histoire. Donc, en deux mots, comment passe-t-on du mythe à la fiction ? Eh bien, une fois encore, il faut faire une plongée temporelle relativement récente. J'aurais tendance à croire, mais bon, on peut parler avec Anne pendant des heures, j'aurais tendance à croire, on l'a déjà fait d'ailleurs, que grosso modo on pourrait dater la frénésie médiévale qui est porteuse du renouveau arthurien pratiquement de 1800, c'est-à-dire comment en Angleterre d'un seul coup les écrits de Walter Scott, tout le monde connaît Quentin Durward, Quentin Durward. Bon, ce sont des romans d'aventure, d'ailleurs, qui sont passés dans le domaine de l'image, hein, avec des films importants, et sont encore porteurs du poids extraordinairement fort de la chevalerie. La chevalerie va faire un retour en force dans l'Angleterre du 19e siècle, et chose invraisemblable, on n'en est pas encore sorti. C'est-à-dire que ce qui va, personnellement, enfin, je pense que ce qui va caractériser le mythe arthurien, disons, qui devient littérature, c'est d'une certaine façon comment il devient un autre objet. Un objet d'abord historique, sociologique. On voit comment les Plantagenets, à un certain moment de l'histoire, même au XIXe siècle, les Plantagenets vont tout faire pour démontrer une filiation qui est pour le moins hypothétique entre Arthur et les souverains britanniques. Alors, les Tudors aussi. Alors, les Tudors ont tout fait pour se placer dans ce lignage. Mais du point de vue littéraire, ce qui va se passer est assez extraordinaire. C'est-à-dire que l'histoire fonctionne comme ça quelquefois. C'est-à-dire, en quelques années, on va avoir une véritable explosion qui va faire en sorte que tous les écrits arthuriens soient réédités. Et puis là, bon, je ne veux pas vous embêter avec des bouquins qui n'ont même jamais été traduits en français, mais il y a un livre, notamment, celui de Digby, qui s'appelle The Broadstone of Honor, en 1822, qui est la Bible du renouveau arthurien, du renouveau chevaleresque. Et puis, bien sûr, tout autour, il va y avoir, et là encore, il faut faire appel à la sociologie, à l'anthropologie, pour vérifier la prégnance invraisemblable du mythe arthurien, tout simplement dans la société. C'est-à-dire on va redécouvrir les tournois à partir des années 1830-1840. Il va y avoir des bals costumés absolument gigantesques organisés par la cour, le roi et la reine. Et puis, utilisons un jargon politique, une véritable récupération, mais qui est positive. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, on va tout faire pour que le roi Arthur revienne au premier plan. Donc, il y a une résurgence spectaculaire du roi Arthur à partir donc des années 1820-1830. Tennyson, bien sûr, avec les idylles du roi, 1850-1860, et puis l'image, hein, on croit que l'image est récente. Ce qui a participé de cette extraordinaire explosion arthurienne, c'est l'art, et notamment l'art pictural, les pré-raphaélites. Hein, tu nous as montré quelques exemples tout à fait extraordinaires. Tu nous as parlé de William Morris. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur William Morris, qui va d'une certaine façon poser les fondations de la fiction, peut-être de ce qu'on appelle aujourd'hui la fantasy, hein, avec trois livres. Bon, je ne veux pas donner les titres, mais William Morris est certainement un des exemples les plus importants du passage, disons, à la fiction, peut-être pas arthurienne seulement, mais la fiction chevaleresque. Hein. Alors après, il y a une sorte d'accélération du point de vue littéraire. Et là, l'histoire, l'histoire de l'Empire britannique va d'une certaine façon prolonger cet intérêt pour le roi Arthur. Alors quel est le lien? Eh bien, il se trouve qu'il y a un empire britannique qui s'étend de plus en plus, surtout évidemment en Afrique. Eh bien, en Afrique, qu'est-ce qui va se rejouer? Bah, une sorte de gigantesque saga chevaleresque où les gentlemen britanniques vont devenir les nouveaux chevaliers. Et là, vous avez quelques noms assez connus. Tout le monde connaît Conan Doyle, tout le monde connaît Kipling. Eh bien, j'aimerais ajouter un nom moins connu, mais qui est pour moi un des plus grands, c'est Haggard, que les Français appellent Reader Haggard, hein, qui a, en trois livres, d'une certaine façon, résumé tout l'intérêt des Britanniques pour, pas le roi Arthur, mais une sorte de renouveau chevaleresque qui a été, une fois encore, réapproprié par l'intelligentsia britannique, peut-être dans un sens qui frôlait la propagande, hein, mais ceci est une autre histoire. Donc Haggard à travers She, les mines du roi Salomon, Alan Quatermain, qui va devenir un grand héros contemporain, va fixer de nouvelles bornes qui font que, je vais employer un jargon que les universitaires connaissent bien, mais il n'y en a pas d'autres, c'est une hybridité générique, c'est-à-dire que des genres qui étaient jusque-là différents vont se mêler. Et c'est très important ça, parce que ce qui nous frappe aujourd'hui, c'est que le mythe arthurien ou le mythe chevaleresque devient un autre objet. C'est-à-dire que, je pourrais prendre de multiples exemples, mais on parlait tout à l'heure de l'auteur de Pendragon, Lowhead, il va glisser le mythe atlantidien dans le mythe arthurien. Bon, ce qui paraissait évidemment totalement fou il y a encore quelques décennies. C'est un exemple des multiples allers-retours entre plusieurs versions mythologiques qui vont finir par déboucher sur ce qu'on appelle véritablement aujourd'hui la fantaisie, surtout du côté féminin, sinon féministe, avec les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Mais évidemment, et je terminerai là-dessus, au milieu, il s'est passé des choses très importantes dans les années 1930-1955, c'est bien sûr les trois auteurs, et surtout Tolkien, bien sûr, C.S. Lewis avec Narnia, c'est très important, même si Narnia est moins important pour les gens qui s'intéressent à Tolkien et le Seigneur des Anneaux, c'est tout de même très important. J'ajouterai le nom de Charles Williams aussi, qui a écrit une version très intéressante du Graal contemporain. C'est aussi une des manières de montrer comment le mythe perdure, c'est-à-dire que d'un seul coup, des gens contemporains de l'artiste vont se mettre à rechercher le Graal dans l'Angleterre contemporaine ou quelquefois dans d'autres pays, ce qui permettra d'ailleurs de faire vibrer le cœur nationaliste et patriotique des Britanniques. Et c'est vraiment ces trois personnes qu'on appelle d'ailleurs le cercle des médiévistes disparus, hein, qui représentent ce renouveau médiéval, ce qu'on appelle néo-médiévalisme, encore un jargon insupportable, et qui va déboucher sur la vogue actuelle de la fantaisie à travers, bien sûr, la fiction et également le cinéma, l'image en général. Aux USA, ça c'est tout de même très surprenant, comment le mythe chevaleresque, comment le mythe du Graal, comment le mythe arthurien peut-il s'installer du côté américain? Ça c'est tout de même étonnant. Eh bien, les Américains sont aujourd'hui peut-être le peuple qui s'intéresse le plus au roi Arthur. C'est invraisemblable le nombre de romans ou même tout simplement d'essais, hein, qui s'intéressent à Arthur. Pourquoi? Parce que aussi dans les années 1920, il y a eu les pulps, les revues de science-fiction, de fantastique, etc. Weird Tales, hein, où vous avez des gens comme Lovecraft, C.A. Smith, Fritz Leiber, Howard, Bradbury, hein, vont se mettre à écrire des nouvelles qu'aujourd'hui nous classerions comme fantasy. Hein. Et puis, en 1938, un nommé White, qui n'est pas très connu, hein, va écrire pratiquement, enfin, discuter de ça. Tu as peut-être d'autres exemples, mais peut-être la première fantaisie arthurienne contemporaine qui est l'épée dans la pierre, ça date de 1938. Mais peut-être trouverait-on quelques fictions arthuriennes juste avant. Hein. Et puis après, Déferlante, Moorcock, et jusqu'à Harry Potter, etc. Donc voilà comment, d'une certaine façon, avec une accélération temporelle gigantesque à partir de Walter Scott en 1800, nous sommes passés à une nouvelle phase où la fantaisie est devenue un nouvel objet populaire et un objet absolument fascinant. Mais non, mais...
Eh ben, merci Lauric, en fait tu as fait le lien jusqu'à la fantaisie arthurienne, donc je ne vais pas ajouter quoi que ce soit, puisque tu vois, les choses notées ont été dites. Je vous invite juste à découvrir peut-être un ouvrage que vous ne connaissez pas encore, parce qu'il est paru assez récemment, il y a quelques mois, d'un historien qui s'appelle William Blanc. Voilà comme ça se prononce, qui est paru chez Libertalia, qui s'appelle Le roi Arthur, un mythe contemporain, et qui justement parle très bien de tout ce qui est, comme il est historien et historien du politique, de ce qui est exploitation du mythe arthurien par l'Empire anglais et par le sentiment d'empire américain. Et notamment, il parle, donc pour apporter des compléments sur cette partie américaine, il montre la constitution de groupes d'enfants qui étaient une espèce de scouts, mais des scouts arthuriens, avec une énorme importance quantitative auprès des jeunes américains des années 50, et que ça a vraiment été un vecteur de pénétration de cet imaginaire-là aux États-Unis. Un autre aspect qu'il souligne, dont on n'a pas encore parlé, c'est l'importance de la comédie musicale Camelot, voilà, qui est toujours jouée, hein, qu'il a toujours été, et qui a été un des axes de mythification des Kennedy. Et notamment de Kennedy juste après son assassinat. Le film récent qui s'appelle Jackie mettait beaucoup l'accent là-dessus. La comédie musicale Camelot présente le règne du roi Arthur comme un bref moment solaire avant une catastrophe, etc. Et c'est vraiment comme ça que le court règne, puisqu'il faut l'appeler comme ça, des Kennedy, a été ensuite réinvesti d'une façon comme une légende nationale pour les Américains, qui le revivifie régulièrement en effectivement en projetant une image d'un roi Arthur curieusement démocrate et démocrate et progressiste. Donc on voit cette espèce de plasticité extraordinaire du mythe arthurien, qui est capable aussi bien de servir des ambitions colonialistes que des utopies progressistes et qui est complètement réversible à tout moment. Donc voilà un mythe qui n'a cessé de se prolonger jusque dans la littérature contemporaine, avec de très beaux croisements entre la fantaisie épique la plus traditionnelle et les mythes arthuriens les plus anciens. Chez Jean-Louis Fegène, par exemple, on ne l'a pas cité alors que c'est un auteur français, donc profitons-en, qui a fait tout un cycle autour des elfes, qui est une espèce de préhistoire arthurienne, où il raconte comment, dans un monde qui ressemble au monde de Tolkien, avec des nains, des elfes, etc., la légende arthurienne prend naissance. Et à la fin du cycle, on va se retrouver avec une épée fichée dans une pierre, alors que voilà, toute la construction est faite pour en arriver à ce que Arthur puisse naître, et donc le monde médiéval enchaîné sur ce que Jean-Louis Fegène a raconté. Alors, présence arthurienne contemporaine, on va terminer là-dessus avec les événements qui sont prévus pour demain. Donc, c'est très contemporain.
Voilà. Alors, nous, demain, on va démarrer une belle aventure qu'on a commencée depuis quelques mois, à savoir l'installation du chapitre... Donc, spinalien des hautes terres arthuriennes, Alors, une histoire pas banale. Alors, moi, je serais tentée de dire que on a eu trois personnes très importantes qui ont pu vous faire partager un travail de longue haleine sur des décennies. Moi, je n'ai pas ce profil-là, sinon que issu d'une école Rudolf Steiner, que certains peut-être connaissent, les fées, les elfes et tout ce monde imaginaire fait partie de la construction de l'éducation. Et plus je vieillis, plus je grandis, entre guillemets, et plus ce monde-là m'interpelle et m'intéresse. Et donc, j'ai eu l'occasion l'an passé de rencontrer Georges, et ça a été magique dans la mesure où tout ce qui touche effectivement au médiéval est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Il y a une vingtaine d'années, j'ai monté un spectacle médiéval dans un château sur des terres vosgiennes. On était 500. Et du coup, tout a pris forme et on s'est dit pourquoi pas. Donc demain va être installé le 4e chapitre en France donc de l'Ordre international des chevaliers de la table ronde et des gentes dames. Donc en fait, c'est une démarche initiatique, mais aussi une démarche de fraternité, de rencontre, pouvoir perpétuer aussi une tradition et pouvoir aussi permettre aux gens de réfléchir sur ce qu'on est aujourd'hui, ce que l'on a été hier et comment effectivement toutes ces préceptes de la chevalerie peuvent nous mener peut-être à une posture. Et en tout cas, moi, j'ose l'espérer et l'imaginer, pouvoir peut-être donner des clés pour résoudre certaines choses que l'on vit aujourd'hui et qui sont bien compliquées à vivre. Alors, je ne parle pas des petits bobos qu'on peut tous avoir chacun auprès de soi, mais je parle peut-être de choses bien plus lourdes que l'on a, ma foi, à connaître et à vivre au niveau international. Voilà, donc demain, on a fait le choix, nous, de porter cette création qui n'est pas facile, hein, parce qu'on le fait donc au vu de tout le monde. Donc ça, même si effectivement la démarche est ouverte, ça nous met un peu en lumière. Donc c'est pas évident. Vous êtes chaleureusement invités à venir nous participer à cette installation de chapitre. Voilà, j'en parle de façon peut-être pas automatiquement aussi forte que ce qu'il faudrait. On est très intimidés. On sera de toute manière. On a besoin de vous tous demain pour pouvoir passer ce pas. Voilà, en attendant, c'est une bien belle aventure et je pense que tout ce qui est légende et mythe font partie de ce qu'on est aujourd'hui et on ne peut pas s'en défaire, même si effectivement toute la fantaisie peut l'intégrer et en faire partie. Alors oui, préciser où et quand, c'est bien, oui, merci. Ça sera au kiosque demain à 10h, donc en fait pour la cérémonie d'installation. Voilà.
Un dernier mot pour Georges Bertin ?
Oui, j'articulerai sur les propos qui ont été tenus. Le mot utopie a été prononcé plusieurs fois et le roi Arthur, qui rêvait de créer une société parfaite, hein, où tous autour de la table ronde étaient égaux en dignité, en droit et en devoir, eh bien, est une figure qui aujourd'hui encore eh bien, nous interroge par cette capacité eh bien, à rassembler des hommes et des femmes de bonne volonté, enfin c'était surtout des hommes au Moyen-Âge, hein. Les femmes avaient un autre rôle mais qui n'était pas moins important, hein. Aujourd'hui des hommes et des femmes, hein, qui tentent de faire revivre les idéaux de la chevalerie, hein, qui sont en fait les idéaux qui sont contenus aujourd'hui dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et c'est peut-être à travers les siècles la belle leçon, hein, que le roi Arthur ne cesse de nous transmettre.
Merci à tous et bon courage pour demain.
Merci.
Merci Anne.